Ils seront francophones vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, édition du 27 octobre 2014, en direct de Washington. Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, élection en Tunisie. Ennahda reconnaît sa défaite face à Nida Tounes, bien avant la proclamation des résultats.
Au Burkina Faso, c'est une semaine de tous les dangers qui commence, point culminant jeudi avec un vote sur la modification de la loi mère.
En tant que maire, nous devons interpeller le président Blaise Compaoré pour qu'il puisse retirer ce projet de loi.
Sarang Tirémi Séré de l'opposition burkinabé.
En tournée en Afrique, la représentante des États-Unis à l'ONU appelle à une mobilisation internationale accrue contre Ebola.
Les pays occidentaux sont-ils en train d'affaiblir les systèmes de santé publique africains? On écoutera les conclusions d'une ONG britannique.
Et nous aurons les sports et la musique bien sûr en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, c'est une semaine de tous les dangers qui commencent. L'Assemblée doit voter jeudi une révision constitutionnelle pour le maintien de Blaise Compaoré au pouvoir. L'opposition veut barrer la route à ce projet. Le gouvernement a annoncé hier que les écoles, collèges, lycées et universités seront fermées toute la semaine. Des femmes avaient appelé à manifester aujourd'hui, mais le maire de Ouagadougou a refusé d'autoriser la marche. Sarang Tirémi Séré, coordonnatrice des femmes de l'opposition et de la société civile.
Nous avons décidé de sortir pour marquer notre désapprouvation face aux dérives actuelles, vu la relecture programmée de l'article 37 de la Constitution, qui pour nous est un coup d'État constitutionnel et qui marque un tournant très grave pour la cité. Les enfants sont dans la rue depuis un certain temps. La situation est très délétère et risque de devenir un chaos. Alors, en tant que maire, nous devons interpeller le président Blaise Compaoré pour qu'il puisse retirer ce projet de loi qui est vraiment démocratique. Nous interpellons les députés pour qu'ils écoutent la voix du peuple. Nous interpellons enfin les forces de sécurité pour que ce soit des forces de sécurité qui vont protéger le peuple et non retourner les armes que le peuple a achetées contre les enfants du peuple. C'est normal que nous nous inquiétons pour la paix et la stabilité qui est vraiment très dégradée en ce moment.
Sarang Tirémi Séré, coordonnatrice des femmes de l'opposition et de la société civile burkinabé.
Désarmement en Côte d'Ivoire, quelques 26 000 armes ont été collectées en 2 ans. Tel est le bilan dressé par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, un processus mis en place après la crise post-électorale de 2010-2011.
Dans le sud-ouest du Nigeria, 2 Allemands ont été la cible d'une attaque vendredi à proximité de la ville de Sagamou, dans l'état d'Ogun. L'un d'entre eux a été tué par balle, tandis que l'autre a été enlevé. D'après la police, 4 hommes ont émergé de la brousse et ont attaqué leur véhicule. Ils voyageaient sans escorte. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, était aujourd'hui en visite à Abuja.
L'ambassadeur américain à l'ONU était attendu ce lundi en Sierra Leone après sa visite hier en Guinée dans le cadre de sa tournée des pays d'Afrique de l'Ouest touchés par Ebola. Pour Samantha Power, la mobilisation internationale contre l'épidémie doit être portée à une toute autre échelle. Jacques Aristide.
Sa tournée l'emmènera également au Libéria puis au Ghana, d'où l'ONU coordonne la lutte anti-Ebola. Au Mali, les autorités ont redoublé d'efforts avec l'aide des experts étrangers pour enrayer toute contamination après le premier cas d'Ebola dans la ville de Kaï. Il s'agit d'une fille de 2 ans décédée vendredi, ce qui a poussé la Mauritanie voisine à annoncer un renforcement des contrôles à sa frontière avec Kaï. Ici aux États-Unis, un garçon de 5 ans arrivé samedi en provenance de Guinée a été placé en observation à l'hôpital Bellevue de New York, là où est traité le médecin américain Greg Spencer, atteint d'Ebola. Son état s'est amélioré ce lundi d'après les autorités. Une infirmière qui avait dénoncé sa mise en quarantaine à son retour de Sierra Leone devrait pouvoir rentrer chez elle selon l'état du New Jersey, qui a décidé, tout comme l'État de New York, d'assouplir les mesures de mise en quarantaine systématique du personnel de santé revenant d'Afrique de l'Ouest après avoir été en contact avec des malades d'Ebola.
Une épidémie de choléra a tué 51 personnes au Niger. D'après l'ONU, quelques 1365 cas ont été officiellement recensés depuis le début de l'année. 38 personnes sont mortes pour le seul mois de septembre. Cette flambée de choléra est en partie due aux importantes inondations qui frappent depuis juin.
République démocratique du Congo, les pluies diluviennes de ce week-end ont fait au moins 2 morts dans le village de Bushushu, dans l'est du pays. On compte aussi des dizaines de disparus. Certaines familles disent avoir perdu 4 à 15 de leurs membres emportés par les eaux vers le lac Kivu ou engloutis par la terre, a expliqué à l'agence France-Presse le chef du village.
Le principal parti laïque de l'opposition tunisienne, le parti Tounes, revendique la victoire aux élections législatives de dimanche, mais les résultats officiels définitifs ne seront pas connus avant 2 jours. Dans ce scrutin historique, le parti Nida Tounes dit avoir remporté près de 80 sièges selon certains sondages. Ennahda pourrait finir avec environ 60%. Nous avons joint à Tunis le journaliste Mourad Selami.
Et il confirme qu'Ennahda pourrait finir avec 60 sièges environ.
Malheureusement, il n'y a pas encore de résultat officiel parce que l'instance supérieure indépendante a décidé de procéder au décompte manuel des votes. Ce décompte manuel risque de prendre un temps très lent. Les premiers résultats partiels de certaines régions peuvent apparaître ce soir, mais les résultats définitifs ne pourraient apparaître que demain, voire même après-demain. Toutefois, sur le plateau radio de Mosaïque FM et sur Express FM, le porte-parole d'Ennahda a félicité les représentants de Nida Tounes. Ennahda a reconnu qu'il est le deuxième parti en Tunisie. Les résultats officiels paraîtront normalement au plus tard après-demain, mercredi.
Le journaliste tunisien Mourad Selami.
8 terroristes tués en Égypte, des raids dans la péninsule du Sinaï, des échanges de tirs les ont notamment opposés aux forces de sécurité. C'est ce qu'annonce l'armée quelques jours après un attentat suicide qui avait coûté la vie à 30 soldats dans cette région.
Algérie, 2 islamistes ont été tués dimanche par l'armée à Djigel, à 300 km à l'est d'Alger. C'est ce que fait savoir le ministère algérien de la Défense. L'armée algérienne mène plusieurs opérations, dont l'une à l'est pour retrouver le corps d'Hervé Gourdel, guide français décapité en septembre. Près de 90 islamistes armés ont été tués depuis le début de l'année, selon l'armée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, un kamikaze a tué au moins 24 miliciens chiites près d'une ville que les forces gouvernementales affirment avoir reconquise après des combats avec l'État islamique. L'attentat près de Jouf al-Sahar a également fait 25 blessés. Entre-temps, l'armée américaine dit avoir lancé 11 frappes aériennes en Syrie et en Irak dans les dernières 24 heures, dont 4 près de la ville kurde de Kobané, assiégée par les djihadistes.
Des frappes de l'armée pakistanaise ont fait au moins 33 morts dans le Waziristan Nord, a-t-on appris de sources militaires. Le bilan de l'offensive lancée en juin dernier est de 1100 morts parmi les présumés terroristes. Ces derniers sont accusés de mener des attaques meurtrières des deux côtés de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan.
L'Union européenne a demandé ce lundi à Israël de revenir d'urgence sur l'intention d'accélérer la construction de 1000 logements à Jérusalem-Est, jugeant que cela serait une décision peu judicieuse et inopportune. La décision du gouvernement Netanyahou a été confirmée sous couvert de l'anonymat par un responsable. L'Union européenne a toujours condamné les projets de colonisation des autorités israéliennes au-delà des frontières d'avant 1967, qui doivent, selon elle, servir de base aux négociations de paix, rappelle l'AFP.
En Corée du Sud, les procureurs ont requis la peine de mort pour le capitaine du Sewol, le ferry qui a fait naufrage en avril, tuant plus de 300 passagers. Ils ont demandé la prison à vie pour 3 responsables de l'équipage et des peines de 15 à 30 ans pour les 11 autres membres. La plupart des victimes étaient des écoliers.
Les habitants d'une localité menacée par une coulée de lave sur l'une des îles de l'archipel de Hawaï dans le Pacifique ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile. Camille Gaudidier.
La coulée de lave du volcan Kilauea sur l'île de Hawaï menace les habitants de Pauha, localité à l'est de la grande île. Dimanche, ils ont reçu l'ordre d'évacuer. La lave ayant atteint la périphérie de cette ancienne plantation de sucre qui regroupe aujourd'hui des petits magasins et des maisons, soit quelques 800 habitants. En tout, la région, située sur le chemin de la coulée de lave, abrite environ 4000 personnes. Le volcan Kilauea est l'un des plus actifs au monde. L'une de ses bouches, le Pu'u'o, est en éruption continue depuis janvier 1983. Une nouvelle bouche a commencé le 27 juin à déverser de la lave en direction de Paua. La coulée se déplace à une vitesse d'environ 9 mètres l'heure. Elle s'est arrêtée en septembre avant de reprendre début octobre.
Voilà pour le journal. Il est 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington. Chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Restez branchés pour nos dossiers du jour. Dans le nord du Cameroun, les combats entre l'armée et des membres présumés de Boko Haram se poursuivent depuis un mois. Au moins 250 personnes ont été tuées pendant ces affrontements. Lionel Gaïma.
À cause de combats depuis un mois, les habitants fuient en masse plusieurs localités de cette région camerounaise. Amidou Jafarou, un habitant de Ding Ding, affirme que les assaillants avaient déjà tué au moins 22 personnes avant l'arrivée des soldats camerounais. Le colonel Didier Badjek, porte-parole de l'armée, dit qu'au moins 250 personnes ont été tuées, dont 9 soldats et plusieurs civils le long de 500 km de la frontière avec l'État de Borno au Nigeria.
Cette secte est en possession d'un véritable arsenal de guerre et ne planifie pas ces incursions dans le but de créer seulement des attritions.
D'après le porte-parole de l'armée camerounaise, Boko Haram a un arsenal de guerre impressionnant et mène des attaques régulières pour tenter d'élargir ses territoires avec des villages frontaliers. Selon lui, la semaine dernière, les islamistes ont même tiré des roquettes pendant la visite du général René-Claude Meka, chef de l'armée, venu encourager ses troupes.
Je veux vous dire qu'à cet endroit, il ne se passe pas d'heure sans que cette zone ne soit alimentée en feu nourri. Et au moment où nous nous trouvions, il y a une rafale qui est venue du côté d'en face, et rafale à laquelle nous avons répondu énergiquement jusqu'à épuisement de toute riposte. Et le chef d'état-major des armées n'était pas venu pour commander des tirs à cet endroit. Et à partir de ce moment, il a été prié par le commandant de la zone de dégager cette zone des opérations comme il aurait été demandé à n'importe quelle autorité dans n'importe quel pays qui maîtrise les règles élémentaires du combat et de la tactique.
Il y a quelques mois, les islamistes avaient même planté leur drapeau à Ashigashia avant d'en être chassés après quelques semaines d'occupation. Le général Jean-Claude Meka, chef d'état-major de l'armée, se veut inflexible.
Le Boko Haram doit savoir que, quoi qu'il fasse, où qu'il se trouve en territoire camerounais, il va nous trouver et nous sommes déterminés à l'empêcher de réaliser ses funestes desseins. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour que le Boko Haram ne trouve refuge nulle part sur le territoire camerounais.
Le ministre Issa Tchiroma, porte-parole du gouvernement, rejette toute idée de présence durable des islamistes dans le nord du Cameroun.
L'allusion
est faite sur la présence d'une rébellion armée sous couvert de Boko Haram au Cameroun. Ce sont des allégations non fondées. Chacun sait qui est Boko Haram et quelles sont leurs motivations depuis leur base au Nigeria. Boko Haram, dans sa sanglante insurrection, n'a jamais caché sa volonté d'instaurer un califat dans la région. Il y a 10 jours, le gouvernement d'Abuja a annoncé un cessez-le-feu avec le groupe islamique, mais les combats ont continué à la fois au Cameroun et au Nigeria.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est aujourd'hui en mode veille. Situation politique oblige, car pour la première fois sera mis en exécution le droit à la désobéissance civile reconnu aux citoyens par la Constitution. Comment les Burkinabés s'y préparent? La fermeture des écoles et universités, des avis sur la modification de la Constitution, tout ça dans un reportage de notre correspondant Zoumana Wanogo.
Les Burkinabés s'apprêtent à vivre la semaine des incertitudes. Un petit tour dans la capitale Ouagadougou
donne les signes d'une peur sur la ville. Et comme pour s'y préparer, les stations d'essence ont été prises d'assaut. Souleymane Yamego, un citoyen que nous avons rencontré dans une station-service, explique.
La marche de demain, là, puisque quand les positions se radicalisent, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est casser tout, non? Donc ça m'inquiète. Mieux vaut prévenir, mieux vaut avoir le gasoil. Il faut fuir, on va fuir. C'est la situation là qui inquiète les gens. On ne sait pas si on aura le gasoil demain et peut-être après si tout est cassé.
Tout ce micmac prend racine dans le projet de modification de la Constitution. Ibzou Kemde se prononce sur cette modification.
Aujourd'hui, il faut dépasser ce problème de légalité qui divise la classe politique parce que le problème s'est déjà résolu sur l'aspect éthique, moral et spirituel quand on a convoqué le Collège des Sages en 2000. Et c'était pour pouvoir ramener la paix au Burkina. Donc on avait modifié l'article 37 qui était un septennat pour le ramener à un quinquennat et renouvelable une fois.
Sur la fermeture des écoles pendant toute cette semaine, écoutons l'avis de l'étudiant Soma Issouf.
Présentement, nous sommes contre la modification de l'article 37. Et on espère qu'à travers la marche de demain, les autorités du Burkina vont bien réfléchir et retirer leur projet de modification de l'article 37. Là.
Pour Marcel Tankwano, le président du M21, organisation de la société civile, la décision de fermeture des établissements scolaires et universitaires aura un effet boomerang. Suivons Marcel Tankwano.
On a fermé inutilement les écoles parce qu'ils ont certainement peur. Ils se disent que c'est les élèves, les étudiants qui viennent aux marches. Non, la marche du 23 août passé, les écoles étaient fermées. Les étudiants étaient en vacances, mais il y avait plus de 100 000 personnes dans la rue. Donc cette fois-ci même, l'effet boomerang, c'est-à-dire le fait même de libérer les étudiants et les élèves même, mais ça va même encore contribuer même à la réussite de cette marche. Voilà, c'est l'entêtement d'un dirigeant. C'est très regrettable qu'on en arrive à là. Notre constitution, combien de fois elle a été modifiée? Donc nous n'avons même plus l'original. Aujourd'hui, c'est un brouillon que nous détenons.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le bras de fer de tous les dangers au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré défiera-t-il ses opposants en briguant un nouveau mandat? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Une organisation humanitaire britannique accuse des pays occidentaux d'affaiblir les systèmes de santé publique africains à l'heure où ils arrivent à peine à mener la lutte contre Ebola. L'ONG Health Poverty Action dénonce notamment le recrutement par ces pays de centaines de médecins et d'infirmiers du continent africain. Jacques Aristide.
Un des rares moments de bonheur en Sierra Leone, 45 malades d'Ebola ont pu vaincre la maladie grâce aux soins qui leur ont été prodigués au centre de traitement Hastings, à près de la capitale Freetown. Hawana Toutouré, une survivante.
Je peux maintenant bien manger, je n'ai plus mal au ventre, plus de maux de tête et plus de douleurs au cou. Et bien oui, je ne souffre plus.
Il n'y a que des médecins sierra-léonais qui travaillent dans ce centre de traitement, ce qui est très rare dans ce pays dont le système de santé laisse beaucoup à désirer, d'après le directeur de Health Poverty Action, Martin Drury.
Il est important de savoir que, même si Ebola se transmet entre humains, l'épidémie est susceptible de s'aggraver à cause d'un manque de personnel soignant et des carences dans le système de santé.
Martin Drury montre du doigt un investissement inadéquat, mais aussi ce qu'il appelle le pillage par des pays occidentaux d'agents de santé formés en Afrique. Il cite en exemple le National Health Service ou le NHS britannique qui a recruté 10% du personnel médical formé en Sierra Leone. Situation injuste, crie le patron de l'ONG londonienne, qui affirme toutefois ne pas être contre l'émigration de médecins et d'infirmiers. La réplique du gouvernement anglais n'a pas tardé. Il affirme que les professionnels de la santé cherchent souvent à travailler à l'étranger pour acquérir de nouvelles expériences et renforcer leurs compétences. Mais pour Martin Drury, si les pays les plus riches sont en train de tirer profit des pays les plus pauvres, il faut leur renvoyer l'ascenseur par le truchement d'une subvention. Londres rappelle avoir déjà déployé un total de 750 militaires pour lutter contre Ebola en Afrique de l'Ouest, tandis que Washington y a envoyé 4000 soldats. Il s'agit là d'une aide prépondérante, de l'avis de Sophie Harman de l'université Queen Mary de Londres.
N'envoyer que de l'argent est un problème. Où va cet argent? Et avec quel rythme va-t-il être utilisé sur le terrain pour venir en aide à ces pays et ces populations qui en ont désespérément besoin?
Au Libéria, la présidente Hélène Johnson-Sirleaf a récemment exhorté des centaines de médecins libériens travaillant à l'étranger à rentrer au pays. Mais son propre fils, qui est lui-même médecin, a choisi de rester aux États-Unis, expliquant qu'il peut ainsi mieux combattre la maladie dans son pays d'origine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
C'est le choc en Afrique du Sud après la mort de Senzo Mediwa, capitaine de l'équipe nationale de football, assassiné dimanche lors d'un cambriolage qui a mal tourné. Le meurtre du footballeur pose à nouveau dans ce pays la question cruciale de l'insécurité permanente. État des lieux avec David Zoumenou, expert en sécurité, joint à Johannesburg par Jean-Roger Billon.
Les meurtres de ce genre sont devenus monnaie courante dans le pays. Ils sont passés les célébrités comme Lucky Dubé. Et dans la même semaine, il y a l'un des ténors de l'ANC, Jacques Ntembo, qui a été également victime d'une agression. Et quelques jours après, c'est le gardien de but qui est buté dans un cambriolage à la maison. Donc le choc reste palpable. Il y a beaucoup de questions qui se posent.
Alors 47 assassinats par jour pour une population de 53 millions d'habitants. Est-ce que le cas Moïwa fait transparaître une volonté nationale de mettre fin à ce fléau de la criminalité?
En tout cas, il interpelle les autorités de ce pays. Il n'y a pas longtemps, l'Institut d'études de sécurité a fait le constat amer d'une stagnation des crimes en Afrique du Sud. L'élément qui est ressorti, c'est cet élément de proximité, cet élément d'identité, c'est-à-dire que 85% des crimes sont commis par des gens qui se connaissent entre eux, qui vivent dans la même maison, dans le même quartier ou dans le même arrondissement ou qui travaillent ensemble et qui sont opposés soit par les affaires de cœur, par des déchirements ou par d'autres problèmes qu'ils ont du mal à résoudre de façon pacifique. Donc le problème reste entier pour les autorités de pouvoir identifier les stratégies appropriées pour attaquer ce fléau, ces maux. Et je pense que le tout dernier cas d'Oscar Pistorius, de l'athlète sud-africain, vient encore pour rappeler que les barbelés et les grilles qu'on met sur les maisons ne sont pas suffisants pour endiguer ce mal. Ça a besoin d'une stratégie effective, ça a besoin d'une volonté politique, d'un engagement réel qui travaille sur l'individu pour essayer de faire de l'Afrique du Sud un pays en sécurité pour tout le monde.
L'Afrique du Sud est un pays leader sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore conseiller cette destination à qui veut se rendre en Afrique?
Je pense que l'Afrique du Sud reste une destination intéressante en ceci, qu'au moins il y a quelque chose qui est fait. Il y a un suivi sur les activités criminelles de certains groupes qui est fait, contrairement à d'autres pays où on ne dispose même pas de statistiques sur la criminalité, les cambriolages, les vols à main armée. Et c'est peut-être pour ça qu'on pense que l'Afrique du Sud est le pays le plus dangereux en Afrique. Mais si on fait un tour à Nairobi, si on fait un tour au Nigeria, si on fait un tour ailleurs, on se rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus effrayantes qui se passent ailleurs. La préoccupation majeure pour l'Afrique du Sud, comme pour tous les autres pays, c'est de réussir maintenant à assurer la sécurité pour leurs citoyens. Donc c'est tout un défi, c'est un défi qui se pose à tous les pays pour faire de leur pays une destination pour les investissements, une destination pour le tourisme, dont dépend le développement économique de la nation.
David Zoumenou, expert en sécurité, joint à Johannesburg par Jean-Roger Billon.
Et nous passons tout de suite à la page sport, préparée et présentée par Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Gabi.
Parlons du football féminin avec le sacre ce week-end à Windhoek, en Namibie, du Nigeria, en finale de la CAN Dames 2014.
Et oui, les Nigérians ont défait leurs voisines, les Camerounaises, pour s'adjuger le trophée et leur 7e titre continental en 9 éditions, grâce au but de Désiré Oparanozie à la 12e minute et d'Asitat Osuala à la 43e. La Côte d'Ivoire, elle, a remporté la 3e place en battant l'Afrique du Sud 1-0. nigériennes, camerounaises et ivoiriennes représenteront l'Afrique au Mondial de football féminin 2015 prévu au Canada.
Les Américaines, il faut le dire, y seront également après leur victoire hier en finale de la Coupe de la CONCACAF.
Et oui, Team USA a laminé le Costa Rica à Chester en Pennsylvanie 6-0, dont 4 buts d'Abbie Wambach. Avec les Mexicaines et les Costaricaines, les Américaines iront donc au Mondial d'âme du Canada au titre de la CONCACAF.
Dommage pour les Haïtiennes que j'attendais avec impatience. En finale aller de la Ligue des champions d'Afrique samedi, l'entente sportive Sétif est allée arracher un précieux nul de 2 au stade Tata Raphaël de Kinshasa face à l'AS Vita Club.
L'entraîneur de l'AS Vita, Florent Ibengue, estime que ses poulains ont été crispés par l'enjeu du match. Une bonne opération donc pour Sétif qui s'efforcera de s'imposer sur sa pelouse à Blida, ce sera le 1er novembre.
Le Nigeria, sous la menace d'une nouvelle suspension Timothée de la part de la FIFA, qui exclurait définitivement les Super Eagles de la course à la CAN 2015.
À l'origine de cette affaire, cet arrêt de la haute cour de Jos dans l'état du plateau, qui a annulé jeudi l'élection le 30 septembre dernier d'Amadou Pinnick à la tête de la Fédération nigériane de football, et ce qui plonge le football nigérian dans une nouvelle crise. Après 2 suspensions consécutives, la FIFA avait mis en garde cette fédération qu'une nouvelle ingérence dans les affaires du football national entraînerait une suspension du pays jusqu'à au moins mai 2015. Le président de la CAF, Issa Hayatou, a rencontré le ministre nigérian des Sports, Tami Danagogo, en marge de la finale de la CAN d'âme à Windhoek et lui a signifié qu'à moins d'une annulation de la décision de Jos, la FIFA pourrait sévir dès lundi.
Et si vous ne faites que passer sur cette fréquence, sachez que le gardien et capitaine de l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, Senzo Meyiwa, a été tué par des cambrioleurs. Il passait la soirée chez sa petite amie accompagnée d'autres personnes quand des individus armés ont fait irruption dans la maison pour demander de l'argent et des téléphones portables. Ça a mal tourné, c'est le choc en Afrique du Sud. Merci Timothée Donangmaï, que l'on retrouvera tout à l'heure dans Sporama.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Mauvaise nouvelle pour les fans de la musique africaine. Johnny Dedi, dit Johnny Lafleur, est décédé dans une clinique d'Abidjan ce samedi. On se souviendra de lui dans Abidjan Caillou.
Le chanteur de Zigli Biti était malade depuis plus d'un an, Roger.
Oui, Morgane, et par conséquent, il était paralysé et s'était retiré à Divo, une ville de la Côte d'Ivoire, pour des soins. Nyowuli, le successeur d'Ernesto Djedje, quitte la terre en laissant le Zigli Biti, un genre musical originaire de Côte d'Ivoire, s'inspirant des sonorités traditionnelles de peuples de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, Bété, Goro et Didas, qu'il voulait bien sûr voir perdurer et prospérer. Morgane, avec la mort de Johnny, sonne la mort du Zigli Biti. Ses fans ont écrit sur les réseaux sociaux ce week-end « Adieu Johnny Lafleur, que la terre te soit légère ».
Johnny Lafleur, Abidjan Caillou. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
s'achève Le Monde aujourd'hui, une édition mise en onde par Issia Kaba avec Wagner Robert à la console technique.
Laissez-nous vos commentaires et questions sur notre page Facebook et n'oubliez pas de visiter voaafrique.com pour l'actualité en continu.
Bonsoir.